Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Et en cette rentrée littéraire, nous poursuivons notre découverte des nouveaux romans avec aujourd'hui une fiction qui questionne le lien passionnel entre un artiste et son œuvre. Et ici, une œuvre qui ne manque pas de piquant puisqu'il s'agit d'une gravure représentant un corps de femme avec une tête d'écrevisse. Pièce qui donne d'ailleurs son titre au roman de notre invité Oriane Jeancourt-Galignani, La femme écrevisse, donc, paru aux éditions Grasset. Pourquoi cette créature fascine-t-elle autant celles et ceux qui l'ont entre les mains au fil du temps et des pays qu'elle traverse, pour autant qu'il y ait une réponse à ce mystère? Un mystère qui naît en 1643 à Amsterdam, dans l'atelier d'un célèbre peintre, comme on le découvre dans cet extrait lu par l'auteur elle-même.
Sur la table, là où le peintre était assis, une plaque de cuivre. À côté, un dessin au fusain, inaccompli. Margot s'approche, se penche sur la feuille, le dessin du rez-de-chaussée, la tête d'écrevisse. Le mouvement semble être le même, le corps de femme nue donné à voir de plein pied, sans jeu d'ombre sur le sexe, même tête droite. Les antennes qui auréolent sa tête de crustacé se dressent et retombent dans le vide. Les antennes qui lui confèrent une majesté. Les mêmes pinces jetées de chaque côté du corps, l'une à gauche, baissée, inoffensive, l'autre à droite, haute et ouverte. Une violence possible et contenue. Une promesse d'épidémie ou de guérison. Le spectre des possibles déployé entre les pinces. Mais elle a changé. Enfin, le monde qui l'entoure. Derrière la créature, le peintre a ajouté un paysage, quelques arbres, des buissons sombres et une route dessinée au loin. Margot reconnaît les lieux de promenade du peintre, elle l'a accompagné quelquefois. Avant l'aube et l'arrivée des élèves, le peintre se lance presque en courant, comme s'il avait rendez-vous dans les marais qui bordent la ville, parmi ces touffes de végétation qui se débattent dans la boue, vestiges d'une flore arrachée, racine après racine, par les mains increvables d'Amsterdam. Placer la femme écrevisse dans ce paysage, c'est la mettre sous la menace de ces ouvriers qui colonisent et redessinent la ville selon les ambitions des hommes chapeautés et vestonnés. Le peintre dessine un paysage sur le point de disparaître. Les marais qu'on assèche, les bois qu'on rase, les étangs qu'on vide. « Je vivais sous le moulin », l'a-t-elle entendu raconter un soir à son fils. « Je m'endormais sous le moulin. Je me réveillais dans le bruit du moulin. Le bruit fait partie de moi, l'eau, les coups dans l'air, les sifflements de la mécanique. Et les rivières battues par les pales, et au fond de la rivière, les écrevisses qui s'enfouissent dans le sable et dont le crissement des pins se distingue au bord de l'eau, creusement continu dans le lit de la rivière. »
Merci Oriane Jeancourt-Galignani pour cette lecture d'un extrait de votre nouveau roman intitulé « La femme écrevisse » du nom de cette gravure que l'on a aperçue dans ce passage à l'instant. Projet obsessionnel du peintre Rembrandt à Amsterdam dans les années 1640 qui à son tour va devenir l'obsession de Margot, sa maîtresse, laquelle par fascination de l'œuvre va devenir à son tour une artiste. Mais avant de continuer dans la présentation de cette fiction qui est articulée en trois temps, incarnée par trois personnages, tous réunis par la femme écrevisse évidemment, peut-être faut-il préciser d'emblée, est-ce que cette œuvre existe vraiment ou vous l'avez inventée ?
Alors j'avoue que je l'ai inventée. Je l'ai inventée parce que elle m'est apparue en quelque sorte. Vous l'avez dit, c'est l'histoire d'une obsession. C'est l'histoire d'une obsession de ce peintre. C'est l'histoire de l'obsession de sa maîtresse. Et puis, ça va être ensuite l'histoire de l'obsession de différents personnages à d'autres époques de l'histoire. Et donc, il me fallait un tableau qui incarne cette obsession, qui incarne quelque chose de troublant, de fascinant. Et j'ai cherché dans les tableaux existants, mais je voulais vraiment surprendre le lecteur. Je voulais que le lecteur lui-même développe son obsession au fil du livre. Et pour cela, il fallait que ce soit un tableau qui lui était parfaitement inconnu. Et donc voilà comment est née la femme écrevisse, cette créature à corps de femme et à tête d'écrevisse.
En effet, une chimère mi-humaine, mi-bête. Pourquoi, selon vous, Oriane Giancourt-Galignani, fascine-t-elle son créateur ou sa créatrice, d'ailleurs, et tous ceux qui l'approchent? Est-ce que c'est cette hybridation entre homme et animal, donc ce côté monstrueux qui réveille en nous le monstre qui sommeille?
Oui, je crois qu'on est dans cette nature-là. Si j'ai voulu que ce soit Rembrandt qui l'a créé, c'est parce que Rembrandt ne fait pas trop de figures monstrueuses comme ça. C'est pas Jérôme Bosch. Mais il fait des têtes humaines étranges, surtout dans ses gravures. C'était un homme des foules, un homme de la rue, et donc il cherchait partout, dans les rues d'Amsterdam, et notamment dans le marché d'Amsterdam, où on voyait des animaux, des créatures qui revenaient du Nouveau Monde. Eh bien, il cherchait comme ça des animaux ou des créatures étranges et en même temps extrêmement humaines. Et je crois que la femme écrevisse, c'est ce Rembrandt-là, ce Rembrandt des gravures, ce Rembrandt des gens de la rue, ce Rembrandt des drôles de têtes et des drôles de monstres qui nous sont en même temps très familiers et en même temps qui nous sont très inquiétants, sans doute parce qu'ils nous sont familiers.
Alors j'ai l'impression que ce qui traverse votre fiction, Oriane Giancourt-Galignani, c'est aussi cette dualité entre laideur et beauté. Puisque on va entrer un peu plus dans l'histoire avec les personnages, mais en effet, il y a bien cette obsession pour quelque chose qui a priori est choquant, mais qui en même temps est pourtant d'abord une œuvre d'art.
Oui, tout à fait. Et je crois que c'est peut-être la nature même de l'art de faire éclater ces notions de laideur et de beauté et d'aller justement là où elles s'entremêlent. Et je crois en effet que Rembrandt a extraordinairement arpenté ce territoire qui n'est ni dans la laideur ni dans la beauté. Et puis il y a aussi l'aspect allégorique de la gravure, puisque c'est une gravure qui incarne aussi, d'ailleurs je le dis dans l'extrait, l'épidémie et la guérison, c'est-à-dire l'âme, la maladie de l'âme et aussi son désir d'art et de beauté, puisque les trois personnages centraux du livre vont être des gens qui vont avoir un psychisme fragile et en même temps une grande sensibilité d'artiste. Et donc je voulais qu'il y ait cette dualité non réconciliée entre en effet la beauté et la laideur, mais aussi entre l'extrême sensibilité artistique et humaine et ce qu'on peut appeler la folie.
C'est donc une créature qui fascine. Petite parenthèse, est-ce que vous l'avez connu, ce sentiment de fascination absolue pour une œuvre?
Je l'ai tout à fait connue et ça, je pense que vous serez d'accord avec moi. J'en ai même fait mon métier, puisque c'est aussi le vôtre. Moi, je suis critique littéraire et critique dramatique, donc je vais beaucoup au spectacle et je lis beaucoup de romans. Et vous savez comme moi que parfois il y a des œuvres qui ne nous quittent pas et justement elles nous suivent pendant des mois, des années. On a besoin de voir qui est-ce qui l'a fait, on a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'elles nous habitent et on ne le sait pas vraiment souvent. On sait qu'il y a cette dimension mystérieuse et sans doute cette dimension intime qui nous échappe, parce que je crois que c'est ça aussi l'histoire du livre, c'est comment est-ce que cette œuvre d'art va révéler à ces trois personnages une part d'eux-mêmes qu'au début de chaque histoire ils ignorent. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense peut-être que vous en faites l'expérience aussi au quotidien, c'est quelque chose qui, quand on est vraiment baigné dans l'art, eh bien on se rend compte à quel point l'art peut nous apprendre sur nous-mêmes et comment est-ce que nos passions, nos désirs, pourquoi est-ce qu'on va vers tel écrivain, vers tel artiste, vers tel peintre, eh bien sans doute parce qu'il fait appel en nous à quelque chose d'insoupçonnable et d'extrêmement constant et profond.
Et puis la question de la transmission, parce que c'est vrai que, pour rester encore un peu avec Margot, il se trouve que cette fascination, alors peut-être jalousie, même au début de cette œuvre d'art sur laquelle son amant Rembrandt passe des heures, ce n'est jamais fini, il continue, il s'acharne, et puis petit à petit, la jalousie va se transformer en presque une vocation. Et à son tour, alors que rien ne l'a prédestinée, guidée par son maître Rembrandt, elle s'initie à la gravure, mais pas pour n'importe quel projet, pour précisément représenter cette femme écrevisse. Donc l'œuvre transforme littéralement la vie de cette femme et fait naître en elle des talents qu'elle ignorait. Il y a presque aussi quelque chose de l'ordre de la maïeutique. Elle ne savait pas qu'elle était artiste et voir cette œuvre fait naître en elle cette vocation d'artiste.
Oui, mais les chemins de la vocation artistique sont très... très différents les uns des autres, mais vous remarquerez que souvent, quand on regarde les interviews d'artistes, quand on les écoute, ils disent souvent qu'il y a une œuvre à l'origine de tout. Alors, pour les plus chanceux, c'est pendant l'enfance, mais Margot est une femme qui n'a pas eu la chance, et c'est d'ailleurs un des sujets du livre, elle n'a pas eu la chance d'être dans l'art quand elle vient d'un milieu simple, elle est une femme du XVIIe siècle, elle a été mariée très jeune, elle est envoyée à la campagne, enfin, on est vraiment très très loin de l'éducation possible et accessible aux femmes de cette époque-là, de ce milieu-là, et tout d'un coup, elle arrive, et en effet, comme vous dites, elle se révèle ce qu'elle est. Et la femme écrevisse lui révèle ce qu'elle est. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'est un peu comme le portrait de Dorian Gray qui raconte à Dorian Gray l'homme qu'il est en gestation, c'est-à-dire le vieil homme qu'il va devenir. Eh bien, elle, c'est pareil. C'est tout d'un coup la femme écrevisse. En effet, elle va se débattre avec cette passion parce qu'elle ne la comprend pas. C'est une femme qui découvre l'art à 40-45 ans. Et donc, elle comprend pas ce qui l'anime. Est-ce que c'est une jalousie féminine, ce qui serait finalement quelque chose de plus spontané, de plus naturel? Mais non, ça n'est pas vraiment ça. Est-ce que c'est une crainte bestiale, un peu superstitieuse? Elle se pose la question au début. Elle a des références religieuses. Elle dit ça doit être dans la Bible une créature comme ça. Mais non, c'est pas religieux non plus. C'est pas la superstition familiale. C'est quelque chose d'autre. Et en effet, ce quelque chose d'autre, ça s'appelle la vocation. Et elle va prendre des années pour le comprendre. Et elle va finalement le comprendre qu'à la fin de sa vie.
Alors c'est intéressant que vous citiez le portrait de Dorian Gray, le grand roman d'Oscar Wilde, où en effet il y a ce pacte quasi faustien entre un homme et le tableau qui le représente, puisque à la place de Dorian Gray qui va rester jeune quasiment éternellement, c'est le tableau qui vieillit et qui porte les stigmates de tous les défauts de ce jeune homme anglais. Parce qu'il y a une forme d'envoûtement entre l'homme, la femme et l'œuvre d'art, puisque après Margot von Hauser, aux Pays-Bas au XVIIe siècle, on va faire la connaissance de Ferdinand von Hauser, l'un de ses héritiers, à Berlin en 1920, sans oublier Grégoire, le petit-fils qui lui vit à Paris en 1999. Alors le premier a connu la gravure sur un mur de la maison familiale, son propre père d'ailleurs était déjà obsédé, et le deuxième, la découverte au musée du Louvre. Que représentent ces deux hommes, selon vous, Oriane Giancourt-Galignani, sachant que l'un est acteur dans le Berlin des années 20 et l'autre, lui, trouve refuge à Londres dans les bras d'une disquaire de jazz à l'aube des années 2000?
Oui, et Margot, les trois ont ce tempérament artistique incontestable, mais de manière assez complexe pour chacun d'entre eux, de manière modulée par le milieu et l'époque dans laquelle ils sont. Mais aussi, les trois ont, et c'est aussi ça, vous parlez de transmission, c'est aussi ça l'histoire du livre, c'est comment est-ce que une fragilité, une monstruosité, quelque chose que symbolise la femme écrevisse, eh bien, peut traverser une famille. Et donc, les trois ont cette, on peut le dire, cette faiblesse psychique, cette aspiration à la folie, qui va chacun les mener vers différentes voies, puisque Ferdinand va donc être cet acteur assez fascinant du Berlin des années 20, mais peu à peu, il va perdre pied et il va avoir différentes personnalités. Et tout d'un coup, il va lui-même devenir plus ou moins paranoïaque. Et puis, ça va être très compliqué dans cette Allemagne des années 20-30 pour un homme comme ça qui perd pied. Et Grégoire, là, on est à l'aube des années 2000, c'est un garçon, c'est le plus jeune, lui aussi a ce tempérament artistique, cette sensibilité, je dirais plutôt que ce tempérament, mais il ne sait pas bien quoi en faire, il est encore très jeune, mais il sait seulement qu'il y a cette forme d'inquiétude et de violence qui l'habite, Et donc il va devoir fuir Paris, fuir sa famille, fuir son père. Et il va essayer, en effet, par l'amour qu'il va rencontrer, de fuir cette violence qui monte en lui. Mais je crois que voilà, ce qu'ils ont en commun, Margot, Ferdinand et Grégoire, c'est ce mélange de passion de l'art et de violence intérieure qu'ils ne parviennent pas à maîtriser.
Donc l'œuvre est comme un révélateur au sens photographique du terme sur ces personnalités qui se trouvent être de la même famille, mais ont une sensibilité particulière.
Voilà. L'œuvre révèle ça, l'œuvre révèle, si je puis dire, la maladie invisible qui court dans la famille.
Mais aussi comme une sorte de malédiction, parce que sur ces trois personnages, l'effet est terrible, ils tombent dans une folie destructrice, autodestructrice. Et Grégoire va tenter de briser ce cercle du malheur, mais au prix d'une grande violence.
Ouais.
Et je me disais que c'était quand même une issue inquiétante aussi pour celles et ceux qui créent, comme vous, Oriane Jeancourt Galignani. Quand on est écrivain, on crée une œuvre. Et là, vous nous renvoyez l'image d'une œuvre qui est si dangereuse qu'il faut arrêter.
Ouais, bien sûr. Mais c'est pas n'importe quelle œuvre. Je ne sais pas si Grégoire, on le quitte, il est relativement jeune. Je sais pas. Peut-être qu'il deviendra un artiste et qu'il créera d'autres œuvres, des œuvres plus apaisées. Mais évidemment, cette gravure est une métaphore de la malédiction et de la malédiction et de la maladie qui traverse de la folie. Il y a certaines familles comme ça qui sont touchées par la folie ou qui sont touchées par la dépression, et de siècle en siècle, on sait qu'il y en a toujours un ou deux qui seront touchés et qui passeront par là. On connaît aussi ces familles où il y a un certain nombre de suicides, etc. Bon, la famille von Heuser, elle est de ces familles-là. Alors, on peut appeler ça malédiction, on peut appeler ça génétique, on peut appeler ça... Voilà. Ici, la femme écrevisse incarne tout cela. En effet, c'est quelque chose de fascinant parce que elle octroie cette singularité à quelques individus de la famille, mais il faut aussi à un moment y mettre fin. Et donc en effet, Grégoire est celui qui se désigne pour y mettre fin. Il est celui qui comprend, parce que c'est souvent comme ça dans les drames familiaux qui se répètent de génération en génération, c'est que personne n'y comprend rien et donc inlassablement on répète. Et lui, il tout d'un coup, il est celui qui va saisir, qui va écouter, notamment son grand-père, qui va regarder, qui va apprendre cette histoire de Margot et qui va justement l'interpréter et qui va comprendre qu'il y a quelque chose qui court silencieusement, parce que c'est aussi un roman sur le silence de famille.
Donc, d'ailleurs, vous écrivez « Il faut briser le silence ».
Voilà, on est là-dedans. Et on sait bien que pour ce type de maladie, de folie générationnelle, pendant des siècles, on n'en a pas parlé. Pendant des siècles, il y a ces familles où on ne parle de rien, même lorsqu'il y a des suicides, on n'en parle pas. C'est quelque chose d'honteux qu'on traîne de génération en génération. Et voilà que Grégoire décide, en effet, d'un geste violent, d'un geste hautement symbolique aussi, d'y mettre fin à sa manière.
Comme un sacrifice également.
Oui, tout à fait, comme un sacrifice.
Si la folie était déjà présente dans votre roman précédent, Adamar, Oriane Jeancourt Galignani, en revanche, je me demandais s'il y avait eu un événement qui avait déclenché cette idée vraiment de l'œuvre d'art qui, en traversant le temps, en passant de main en main, aller sur plusieurs générations, prendre possession de quelques personnes en particulier.
Écoutez, ça fait des années, vous l'avez dit, j'écris sur la folie, sur les gens malades depuis quelques temps, mais je n'avais jamais raconté la manière dont certains individus passent de la rationalité à la folie. Enfin, comment est-ce qu'on bascule? Parce que c'est aussi ça, Margot, Ferdinand, Grégoire, ce sont trois personnes qu'on découvre au début et qui sont extrêmement rationnelles, et puis qui basculent au cours de leur vie dans quelque chose d'incontrôlable. Et je n'avais jamais pu le raconter parce que je ne voyais pas comment est-ce que nous, êtres rationnels, on pouvait véritablement saisir ça. Et je savais qu'il me fallait une métaphore, il me fallait une image très forte pour ça. Et la femme écrevisse, c'est aussi ça, parce que c'est aussi la femme, l'individu en métamorphose. Elle est mi-humaine, mi-animale. Elle est en train de se métamorphoser dans quelque chose qui nous est radicalement étranger. Donc voilà, je peux dire que j'ai passé beaucoup d'années à trouver cette métaphore.
À trouver ou à la chercher?
À la chercher et finalement à la trouver. Mais ceci dit, ce qui a mis le point de départ véritable de ce livre, c'est la découverte de Margot, qui est donc cette maîtresse qu'a eu Rembrandt, puisque ça c'est vrai, il a eu cette maîtresse qui était Margot, avec qui il a vécu pendant 5 ans, qui était la nourrice de son fils, tout ça est vrai. Et puis qu'il a brutalement interné, comme je le raconte dans le livre, pendant 17 ans jusqu'à sa mort. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment est-ce que ce peintre que j'adore, comme tant de gens, ce peintre si humain, si digne, si capable d'empathie dans son œuvre, peut faire enfermer une femme jusqu'à sa mort. Une femme avec qui il a vécu pendant 5 ans. Dans un asile, et vous vous doutez bien que les asiles du XVIIe siècle, hein, je les raconte dans le livre, les asiles pour femmes du XVIIe siècle, où on mettait les femmes jugées folles, mais aussi les prostituées, mais aussi les mendiantes, voilà. C'était quelque chose d'abominable, d'inhumain. Et qu'il ait pu mettre, voilà, sa compagne de vie là, c'est quelque chose que j'ai pas compris. Donc là, j'ai commencé à faire des recherches. Et donc, je me suis dit, mais il est possible que cette femme ait, voilà, ait basculé dans quelque chose qu'il n'a pas compris.
Peut-être parce qu'elle lui faisait de l'ombre aussi. Peut-être qu'en effet, elle avait réalisé de son côté des toiles ou des gravures, précisément, qui était si belle et si réussie qu'il en a eu peur.
C'est une idée qui est mise dans le livre, mais je ne sais pas. Je ne veux pas le dire parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas vraiment de... Évidemment, hein, c'est comme ça, il n'y a pas vraiment de recherche sur cette femme. C'est, évidemment, il y a tous les livres possibles écrits sur Rembrandt et de très grands. Mais sur cette femme, il est acquis, ce qui m'a d'ailleurs un peu énervée, il est acquis que cette femme le harcelait parce qu'elle voulait se faire épouser, donc il l'a mis de côté en la condamnant à mort. Mais bon, je trouve que c'est un peu rapide quand même pour expliquer la destinée de cette femme.
En tout cas, avec ces trois personnages, on est au cœur de trois expressions artistiques, la peinture, le jazz et le cinéma, des domaines que vous avez formidablement documentés avec de très nombreuses références exactes. Je suis allée vérifier un film d'Hitchcock, Champagne, en 1920, où effectivement Ferdinand, alors sous un autre nom, interprète un personnage. Je me demandais, est-ce que avant vous étiez familière de ces univers, ou est-ce que vous aussi vous avez plongé dans ces matières pour comprendre les techniques, le savoir? Comment ça s'est passé, Oriane Jeancourt?
Alors j'ai découvert notamment, alors j'ai beaucoup travaillé pour la gravure, pour comprendre tout le travail de la gravure, parce que ça m'était pas du tout familier. Pour le cinéma, un peu plus. Bon, je travaille dans un magazine où il est beaucoup question de cinéma, et je suis entourée de beaucoup de cinéphiles et qui, comme vous le savez, sont obsessionnels, surtout avec les vieux films, etc. Donc, ils m'ont fait découvrir ça. Mais vous l'avez dit, je me suis inspirée pour Ferdinand d'un acteur qui a existé. Puisque cette famille von Heuser, bon, j'ai connu une famille dans ma vie personnelle, une famille prussienne comme ça, qui a été touchée d'ailleurs par la folie à différentes générations. Et je me suis inspirée d'un acteur qui était un acteur de second plan. Mais en même temps, quand on regarde des films qui a quand même joué avec Lubitsch, avec Hitchcock, de second plan, mais qui était demandé par les plus grands. Et puis qu'il y a cette présence incroyable, ce visage d'un côté très aristocratique, puisque c'est une grande famille prussienne aristocrate, et en même temps très troublant. On voit bien qu'il y a quelque chose qui l'habite, qui le ronge et qui est en train de l'amener. Et d'ailleurs, ça en fait un très bon acteur. C'est ça, je pense qu'Hitchcock cherchait ça aussi. Hein, les cinéastes, les réalisateurs cherchent ce genre de personnalité qu'on appellerait aujourd'hui borderline, parce qu'ils habitent l'écran, parce qu'ils ont ce regard, parce qu'ils sont prêts à tout. Et dans ce cinéma des années 20, en partie expressionniste, ces acteurs prêts à tout m'ont beaucoup impressionné. Donc non, je me suis beaucoup documentée. Pour le jazz, ça c'est une passion personnelle, mais voilà, je me suis quand même un peu documentée. Ouais.
Pour le jazz, c'est une passion personnelle, parce qu'alors là, tout ce qui se passe, d'ailleurs chronologiquement, on l'a pas dit, ça c'est Margot, ensuite Grégoire et on finit par Ferdinand. Donc la partie la plus contemporaine ou la plus proche de nous, c'est la partie centrale qui se déroule donc à Londres, je le rappelle, dans un magasin de jazz qui avant était une librairie. C'est pour ça que Grégoire s'y rend, sur les traces de cette femme écrevisse peut-être. Et il tombe amoureux de la femme qui s'occupe de ce magasin ou se vendent des disques de jazz. Et là, il y a une floraison de références, de titres. Donc, c'est une de vos passions personnelles.
Oui, 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 j'aime beaucoup. C'est une passion que j'ai depuis très longtemps. Et c'est une passion, voilà, que j'ai partagée avec des amis, avec mes frères. Et donc, je me suis inspirée. Moi, j'étais dans une bande un peu comme les Grégoire quand il a 20 ans, où c'est vrai qu'on écoutait plus de jazz et de ce qu'on appelait fusion que de rock et de voilà, mais ça veut dire du jazz contemporain, hein, notamment Petrucciani dont je parle, qui meurt en 99, mais qui était quand on avait 20 ans totalement culte, ce petit puisqu'il était nain, hein, mais voilà, qui jouait au piano et qui tout d'un coup a fait émerger le jazz français et c'est devenu une des plus grandes figures du jazz mondial. Ce qu'il faisait à son piano était inouï. Et donc voilà, donc on était une bande comme ça. Est-ce que je raconte comment est-ce qu'il se retrouve chez le disque, etc. Je sais que ça a l'air quasiment d'une antiquité de dire en 2020 qu'on se retrouvait chez le disquaire au début des années 2000, mais pourtant c'était vrai et c'est toujours vrai à Londres, hein. Et dans quelques disquaires à Paris quand même. Mais c'est toujours vrai à Londres, les gens passionnés de jazz, de musique noire se retrouvent. Et d'ailleurs, cette boutique existe sous un autre nom, justement, à Portobello. Et il y a en effet, comme je le raconte, des gens qui viennent de toute la ville, mais même de toute l'Europe, pour savoir un peu ce qui se fait aujourd'hui en jazz, en fusion, en ska et en reggae aussi.
Alors je vous mets au défi, Auriane. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme titre pour illustrer cet entretien et puis pour nous quitter en musique et faire ce lien entre Amsterdam en 1642, Berlin en 1920 et Paris-Londres en 1999?
Oui, c'est difficile. J'aurais envie quand même de vous parler de Petrucciani. Et il a fait notamment un disque merveilleux qui s'appelle Live in Tokyo. Et voilà, parce que je crois que lui, étant un être fragile, qui était a priori condamné et qui s'est élevé si haut et qui nous a mené si haut dans l'art, je crois que c'est exactement ça que j'ai essayé de raconter dans La femme écrevisse.
Le thème de la métamorphose, de la passion, quitte à aller jusqu'à la folie, mais ça, ce n'est pas obligé non plus.
Non, bien sûr que non.
Merci beaucoup, Auriane Giancourt-Galignani. Je rappelle le titre de ce nouveau roman, La femme écrevisse, qui a paru aux éditions Grasset.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.